7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins sur RFI. Et combien de disparitions volontaires chaque année? Impossible à chiffrer, bien sûr, à l'échelle de la planète. Il est parti acheter des cigarettes et il n'est jamais revenu. Au fil des époques, les scénarios changent, mais le mystère demeure. Avec Internet, le fichage généralisé, le tout informatique, peut-on dans le fond encore disparaître tout en restant en vie? Il suffit de lire votre livre pour trouver des réponses et croiser des destins. Bonjour Léna Mauger.
Bonjour.
Vous êtes journaliste. Stéphane Remael, vous êtes photographe. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes partis tous les deux sur les traces de ces disparus. Vous publiez Les Évaporés du Japon aux éditions Les Arènes. C'est une enquête tout à fait passionnante qui se passe bien sûr au Japon et qui sert de loupe aussi pour décrypter une partie de la société japonaise. 128 millions d'habitants et combien d'adultes qui disparaissent chaque année? Est-ce qu'on a une idée?
Alors, ils se comptent par dizaines de milliers. Les chiffres qui sont aujourd'hui déclarés à la police, c'est 80 000 chaque année. C'était 120 000 dans les années 80. Mais selon les très rares associations qui aident les familles de disparus, ils seraient en réalité beaucoup plus nombreux. C'est un sujet qui est très tabou au Japon, donc les familles ont honte d'aller déclarer un proche disparu.
Alors, même si on tablait, ceci dit, sur 100 000 disparus, ça ne ferait que... ça fait largement...
0,08% de la population japonaise.
Ah, donc, c'est pas forcément courant d'avoir un proche qui disparaît. Dans ce chiffre-là, il y a aussi probablement des personnes qui se sont suicidées. Nous allons nous occuper de ces disparitions volontaires, changer de vie ou plutôt s'approcher de la mort par l'errance dans un pays du contrôle social, le Japon. Thierry Coulon, vous êtes également dans le studio de RFI. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes président fondateur de l'association Assistance et Recherche de Familles de Disparus.
Ouais.
Qui a été créée il y a une douzaine d'années pour venir en aide aux familles. Voilà près de 2 ans que la recherche dans l'intérêt des familles, ce qu'on appelle la RIF, est abrogée par le ministère de l'Intérieur. Trop coûteuse pour les services de police, hein, en ce qui concerne des adultes.
Alors, c'est ce qu'ils disent, oui.
Est-ce qu'on a le droit de disparaître quand on est un adulte? Évidemment, nous en discuterons avec vous. Les disparitions volontaires chez 7 milliards de voisins sur RFI, c'est tout de suite. Léna Mauger et Stéphane Remael, pourquoi donc disparaître du jour au lendemain? C'est la question que vous vous êtes posée au Japon.
Il y a un peu toutes les raisons. On disparaît parce qu'on a raté un examen, on disparaît parce qu'on a perdu son travail, on disparaît pour fuir un amour impossible, on disparaît parce qu'on a des dettes. Et en fait, on disparaît parce qu'à un moment, on a eu le sentiment de pas avoir honoré sa dette envers la société. Et donc, il y a un sentiment de honte qui pousse les Japonais à disparaître par milliers.
Ça peut sembler comme ça, en quelques phrases, disproportionné, les raisons que vous avancez.
En fait, je pense que c'est très difficile de se mettre dans la tête de quelqu'un qui est dans une autre culture. Nous, ce qui nous a fasciné au départ, c'est que disparaître, changer de vie, ça peut apparaître comme un fantasme qui finalement est très universel. On a tous, à un moment ou à un autre, rêvé de partir, de refaire sa vie, d'aller acheter des cigarettes et de pas revenir. Après, ce qu'on a découvert au Japon, c'est que là-bas, la disparition est plus une fuite qu'un idéal. Et donc, c'est des gens qui vivent avec le poids du passé et avec une mémoire amputée.
Fuir un grand malheur ou pas forcément? D'ailleurs.
C'est pas forcément un malheur, c'est vraiment fuir la honte. En fait, il y a un dicton qui est très connu au Japon qui dit « il faut taper sur la tête du clou qui dépasse ». Et les disparus, c'est des personnes qui, à un moment ou à un autre, ont sorti la tête du rang.
Vous le disiez, c'est un fantasme universel, disparaître à un moment donné de sa vie, quelle qu'en soit la raison. Stéphane Remael, vous, en tant qu'adolescent, vous l'avez eu, ce fantasme-là?
Ça m'avait taraudé un moment, en effet, de ma jeunesse. Plus pour des raisons un peu de...
Crise d'adolescence.
Voilà.
Avant que vous deveniez photographe.
Je commençais mon travail de photographe et bon, c'est vrai, je trouvais pas forcément ma place dans la société. J'étais un peu peut-être idéaliste. Et c'était un projet qui me tentait, en effet, de disparaître.
C'est pour ça que vous avez eu envie de vous lancer dans cette enquête?
Non, en fait, ça nous est venu un peu par hasard, par chance, si on veut, quand on travaillait déjà sur d'autres sujets au Japon. Mmh. On a entendu parler de ce phénomène et ça nous a happé. Je pense qu'en moi, ça a réveillé quelque chose qui était bien enfoui. Et du coup, on s'est lancé à corps perdu un peu sur ces traces ou sur ces possibilités d'essayer de rencontrer des gens qui l'avaient fait.
Alors, vous le disiez, Léna Mauger, il y a eu ce pic au début des années 90 où il y a eu énormément de disparitions, plus qu'aujourd'hui au Japon.
En fait, il y avait eu une importante bulle financière et immobilière à la fin des années 80 qu'on appelait la Barburu, au Japon et où les prix doublaient quasiment toutes les semaines. Et donc c'est une époque où les Japonais empruntaient à tour de bras. C'était très très facile d'obtenir un crédit. Et quand la bulle a explosé, je crois que c'est 1,5 million de Japonais qui se sont retrouvés endettés. Et beaucoup de sociétés de titres étaient liées en coulisses à la mafia. Mmh. Et donc en fait, tous les Japonais qui étaient endettés fuyaient les dettes parce qu'ils étaient dans l'impossibilité de les rembourser, mais fuyaient aussi les Yakuza parce que les menaces étaient très importantes. Hein.
L'une des raisons principales pour lesquelles les Japonais, les adultes, choisissent de disparaître, c'est l'endettement financier.
C'est assez difficile parce qu'il n'y a pas de statistiques sur véritablement les disparus, puisque la police en fait mène pas d'enquête. Donc, mais dans les principales,
souvent,
voilà, dans les principales raisons, a priori, c'est l'endettement. Mmh. Et aujourd'hui encore, il y a 50 000 Japonais chaque année qui se retrouvent endettés. Alors, ce qui est très surprenant, c'est que nous, au départ, on se disait, mais pourquoi ils font pas appel à des sociétés ou à des procédures d'effacement des dettes? Parce qu'en France, quand on a des dettes,
voilà, etc.
Exactement. Et en fait, ça existe, mais les gens ont tellement honte qu'ils préfèrent partir. En fait, la décision.
C'est ça, c'est l'incapacité à affronter le regard social. Hein,
exactement.
Le regard
et la décision des peut autres. Se prendre très très vite.
Il y a donc une spécificité japonaise qu'on ne retrouverait pas particulièrement dans des pays à forte pression sociale. Est-ce que il n'y a pas ce phénomène des évaporés en Corée du Sud où il y a aussi une très forte pression sociale?
Alors, il y a des suicides très importants en Corée du Sud. Hein. Je crois que c'est le pays au monde avec le Japon où il y a le plus fort taux de suicide. C'est quand même très japonais parce que dans la littérature, dans le cinéma japonais, dans l'imaginaire collectif, il y a quand même cette figure de l'évaporé qui existe depuis le Moyen-Âge.
C'est le mot qu'on emploie là-bas en japonais,
ouais, évaporé. En fait, c'est yuatsu, c'est la même métaphore physique. Et d'ailleurs, dans l'imaginaire collectif, les disparitions sont associées aux sources chaudes.
Les bains de vapeur, c'est
voilà, aux bains de vapeur, les onsen.
Au pied du mont Fuji.
Les plus connus et les plus beaux, en fait, parce que c'est des lieux naturels, se trouvent au pied du mont Fuji. Il y en a un peu partout au Japon. Et c'est des lieux où on va aussi se laver de ses fautes.
Est-ce que c'est légal de disparaître au Japon?
Un adulte a légalement le droit de disparaître. Si demain, nous, on a envie de partir, personne ne peut nous interdire de partir. Au Japon, s'il n'y a pas de soupçon de crime, la police ne mène absolument aucune enquête. Et d'ailleurs, il arrive assez fréquemment que des personnes, des disparus, finissent par se suicider. Mais en fait, les fichiers sont beaucoup moins recoupés qu'en Europe. Donc en fait, une personne peut se suicider dans une préfecture, la famille a déclaré la personne disparue dans une autre, et ils n'arrivent pas à faire le lien.
Ça serait donc plus facile d'organiser sa disparition au Japon, par exemple, que dans un pays comme la France.
Exactement.
Thierry Coulon, en France, c'est vrai qu'on a une administration très centralisée, tout communique, enfin beaucoup de choses communiquent, pas tout, mais...
Il y a encore des efforts à faire de ce côté-là.
Mais on dit souvent que c'est plus compliqué dans un pays comme la France de disparaître que dans d'autres pays.
Alors en France, un adulte a le droit de disparaître.
De disparaître des fichiers de l'administration française?
Alors,
aussi
disparaître des fichiers de l'administration française, je ne sais pas. En France, on a le droit de disparaître dès lors qu'on ne fait pas l'objet d'une recherche administrative ou judiciaire. Comme au Japon, les principaux facteurs de déclenchement, c'est la perte d'un emploi, c'est la déception amoureuse, c'est la honte. En fait, c'est
chômage,
sentimentale, c'est une fuite en avant. Pareil. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que depuis l'abrogation de la fameuse RIF...
Recherche dans l'intérêt des familles.
Du mois d'avril 2013, il y a de plus en plus de familles qui appellent les associations parce que l'administration n'enregistre plus les RIF. Et il y a même maintenant, on a même des familles qui reviennent nous voir en nous disant, bah voilà, non seulement on veut plus... dans les commissariats, enregistrer la disparition inquiétante. Maintenant, ce que l'on propose de faire, c'est d'enregistrer une simple main courante. Sachant qu'une main courante n'est plus prise dans les statistiques aujourd'hui. Donc, c'est quand même un petit peu...
Est-ce qu'on sait en France combien de personnes disparaissent?
Alors, entre 9500 et 12000, on en retrouvait, parce que les chiffres que je vous donne, là, c'est les chiffres qui étaient
majeurs,
avant.
Hein.
Voilà, je parle des majeurs. Ce sont les chiffres qu'on avait avant 2013. Parce que depuis 2013, pour trouver des chiffres, faut se lever de bonne heure. Même sur le site du ministère de l'Intérieur, ils n'y sont pas. Ça, c'était les chiffres qu'il y avait en 2012. Entre 9500 et 12000 majeurs, on en retrouvait entre 95 et 98%. Sauf que maintenant, du fait que la RIF n'existe plus, on n'a plus de chiffres.
C'est-à-dire que les familles ne peuvent plus saisir la police, voilà, pour qu'elles engagent une procédure d'enquête.
Il n'y a plus de procédure. Mmh. Maintenant, pour qu'une procédure soit acceptée, il faut que la personne soit atteinte de troubles mentaux, qu'elle soit dépressive.
Ou qu'on ait de sérieuses raisons d'imaginer qu'elle aurait pu être assassinée.
Des choses comme ça. Maintenant, une personne, même si c'est, j'ai le cas d'une personne qui avait tout pour réussir dans sa vie, une trentaine d'années, cadre dans une société, qui est partie du jour au lendemain, elle avait des enfants, elle avait son mari, elle a tout planté. Le commissariat n'a pas trouvé ça inquiétant. On l'a répondu au mari, vous savez, votre femme, elle fait ce qu'elle veut, elle est majeure.
Comment ça se passe au Japon, alors, quand une personne disparaît?
Il y a une expression qui dit, c'est comme ça, on n'y peut rien. Comme le sujet est très tabou, en fait, parfois, les familles n'en parlent même pas autour d'elles. C'est-à-dire que les voisins voient que, je sais pas, le mari revient plus à la maison, et on n'ose pas dire, oui, mon mari n'est pas revenu à la maison. Ce qui était assez intéressant quand on a commencé à étudier le sujet, c'est qu'au début, tout le monde nous disait, non, mais les évaporés, on ne connaît pas. Et puis au bout de 5 minutes, je dis, ah mais si, j'ai un voisin, un cousin, un ami, un frère qui est parti du jour au lendemain et qui a pas donné de nouvelles. Et en fait, c'est un sujet qui est tellement tabou, tellement enfoui, comme le suicide, que tout le monde a entendu parler, mais personne n'en discute de manière libre et spontanée.
Il y a eu une série télévisée au Japon il y a quelques années.
Il y a eu une série télévisée justement dans ces années 90.
Pour un peu justement percer le tabou, pour libérer une sorte de...
Ouais, c'était une forme de catharsis, je pense, qui s'appelait La boutique des évadés, qui a eu beaucoup de succès. Donc c'était une série à la télé, il y a eu 3 films au cinéma. Et c'était totalement rocambolesque. Ils avaient donc une société de déménagement qui s'appelait la Société du Soleil Levant. Et qui donc le jour, donc c'était inspiré de société réelle, le jour était une société de déménagement classique, et la nuit, aider des familles entières à disparaître.
Alors, ceci dit, ça c'est une réalité, vous avez rencontré des sociétés de déménagement hors des circuits classiques qui aident des personnes à disparaître, et puis surtout, vous avez retrouvé des disparus qui vous ont confié leur itinéraire, leur parcours et leur douleur. On en reparle dans quelques instants avec vous.
Milliards de voisins, nous parlons de ces évaporés du Japon, enquête sur le phénomène des disparitions volontaire, donc dans ce pays où la honte est un sentiment qui peut se transformer en douleur insupportable et qui pousse souvent des adultes à disparaître. Et puis nous parlons aussi de la situation en France avec vous, Thierry Coulon, puisque vous nous disiez juste avant Michita que en France a donc disparu la recherche dans l'intérêt des familles, qui était une procédure policière qui n'est plus possible, puisque on part du principe qu'un adulte a le droit de disparaître. Au Japon, ce type de procédure n'existe pas, et donc vous nous le disiez, Léna Mogé, de toute façon c'est assez tabou quand une personne disparaît, on évite de se répandre dans le voisinage. Vous avez retrouvé des disparus, comment et pourquoi ils ont accepté d'être photographiés, Stéphane Remael, puisque c'est vous le photographe dans le couple?
Un peu de la même façon que chacun a sa propre histoire pour disparaître, je pense que chacun aussi avait sa propre histoire pour nous accepter à un moment donné de leur vie, pour nous rencontrer.
Et accepter d'être à l'image.
Et à un moment donné aussi, accepter de témoigner par aussi une photo où ils étaient plus ou moins reconnaissables. Alors, on a eu beaucoup de contraintes forcément pour les photos. Certains n'ont pas voulu, c'était peut-être la plus grosse majorité, et une autre partie ont accepté d'assumer un peu cette fuite, ce passé, et d'affronter leur passé comme ils affrontaient un peu la thérapie de la photographie.
Et pour certains d'entre eux, ils n'avaient pas vu leur image en photo depuis combien d'années ?
Ben, c'est pas seulement leur image, c'était plutôt affronter leur passé et leur histoire. C'était plutôt une façon aussi de refaire le chemin qu'ils avaient oublié et peut-être se reconstruire après 10, 20, 30 ans.
C'est ça, pour certains, ils ne l'avaient jamais raconté, cette histoire-là, depuis leur disparition.
Tout à fait, on a rencontré des gens qui étaient vraiment partis depuis plus d'une trentaine d'années et qui nous racontaient pour la première fois, pratiquement, leur passage à l'acte et ce qui les avait poussés, finalement, à s'évaporer.
C'est des gens qui, parfois, l'avaient dit, c'est-à-dire qu'un ami pouvait être au courant. Je pense, donc, par exemple, à un homme qui s'appelle Hachi, qui nous a demandé de l'appeler Hachi parce que c'est pas son vrai nom. Et lui, il s'est confié une fois dans une association à une femme. Lui, il est parti pour une raison qui nous paraît assez folle, en fait. Il avait acheté un appartement avec sa femme. C'était un petit couple. Lui, il était ingénieur. Voilà, ils avaient acheté un bel appartement. Il avait aménagé. Il était tout blanc avec des tatamis, des portes coulissantes. Et en fait, c'était pendant la bulle immobilière de la fin des années 80. Et donc, c'était un moment où beaucoup de bâtiments étaient détruits parce qu'il y avait de la spéculation pour en construire de nouveaux. Et donc, un jour, il y a des gros bras qui, visiblement, étaient des yakuza qui ont frappé à leur porte en disant, voilà, les voisins sont partis, il faut vendre votre logement parce que l'immeuble va être détruit. Et en fait, au lieu de vendre l'appartement et d'en racheter un nouveau, cet homme, Hachi, a dit, mais je le vis comme un échec.
Et cet homme-là n'est pas réapparu, donc officiellement, depuis quoi, plus de 30 ans.
Alors, il est allé, en fait, je pense que c'est très humain, un moment ou un autre de sa vie, de sa fuite, de vouloir renouer le contact, de vouloir au moins prendre des nouvelles, de savoir ce que sont devenus la femme, parfois les enfants, parce qu'il y a des enfants qui sont laissés derrière. Et donc lui, il a eu envie de savoir ce que sa femme était devenue, puisqu'ils étaient de tout jeunes mariés. Il a pas osé aller la voir, elle, directement. Donc il est allé chez son beau-frère et sa belle-sœur.
Combien d'années après, alors?
Je crois que c'est 25 ans après sa disparition. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que des questions qu'on se pose, par exemple, c'est qu'est-ce que je vais mettre ce jour-là? Comment je vais m'habiller? Parce que déjà, est-ce qu'ils vont me reconnaître? Mais en plus, je sais pas, parce que moi, mon image, c'est pas l'image que j'avais de moi avant. Donc, et c'est des questions comme ça, toutes simples, qu'ils avaient pas forcément abordées avec d'autres personnes qui nous confiaient. Et je pense que c'était une forme de libération aussi, parfois. Ils se sentaient pas jugés et le traducteur n'était pas toujours un japonais, justement. C'était, on a eu beaucoup de traducteurs, en fait, qui étaient européens et qui vivaient au Japon.
Pour qu'il n'y ait pas le poids de ce regard. Surtout des hommes qui disparaissent, j'ai l'impression, dans les histoires qu'on retrouve dans votre livre, non?
Dans les disparitions déclarées à la police, il y a autant de femmes que d'hommes. Il se trouve que nous, on a rencontré davantage d'hommes que de femmes.
Il y a l'histoire de cette femme qui abandonne son fils pendant qu'il est à l'école, qui décide qu'elle va disparaître, ne plus jamais revenir, alors qu'elle s'occupe de son petit garçon qu'elle adore. Bon, les femmes ne travaillent pas dans ce pays, donc elles s'occupent de leurs enfants, et elle va réapparaître pour avoir des nouvelles de son fils 20 ans plus tard.
Elle fuit deux choses. En fait, elle fuit un amour impossible.
Mais elle fuit avec aussi le patron de son mari.
Voilà. Son mari est boucher et en fait elle est amoureuse, tombe amoureuse du patron de son mari. Son mari est un mariage arrangé, mais elle fuit aussi une étiquette. En fait, elle fait partie d'une caste qui s'appelle les Burakomines, qui sont un peu l'équivalent des intouchables en Inde et qui sont les gens qui sont au plus bas de la société japonaise. Et donc je pense qu'en partant, elle fuit aussi cette étiquette qu'elle a du mal à assumer.
Mais qui pousse quand même à l'extrême.
Puisqu'elle va ensuite vivre pendant des années de petits boulots, totalement dans une solitude extrême.
C'est des petits boulots, et en plus, c'est... Enfin, moi, ce qui m'a vraiment intéressée dans ce sujet, c'est qu'on touche à tout le Japon de l'ombre. Et le Japon l'échec, qui n'est pas effectivement la vitrine scintillante, éblouissante.
On va y revenir. Vous restez avec nous, Thierry Coulon également. On se retrouve dans 3 minutes, ce sera juste après le flash sur RFI.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI, émission consacrée aux disparitions volontaires d'adultes avec votre enquête, Léna Mauger, Stéphane Remael, Les évaporés du Japon, c'est une enquête sur le phénomène des disparitions volontaires donc au Japon, à la poursuite de l'errance, de l'absence, de la fragilité aussi dans un pays du contrôle social et surtout du contrôle de ses émotions. Thierry Coulon, quant à vous, vous êtes président fondateur de l'association Assistance et Recherche de Familles de Disparus. C'est une association qui existe depuis près de 12 ans maintenant en France, car il y a bien des personnes qui disparaissent volontairement chaque année dans tous les pays du monde, quelles qu'en soient les raisons. Léna Mauger et Stéphane Remael, alors vous êtes parvenus à retrouver des évaporés au Japon. Ça a été très compliqué. Comment vous avez fait? Vous avez eu des indications de lieux pour retrouver ce Japon parallèle, ce Japon des coulisses, ce Japon de l'échec aussi?
Oui, en effet, c'était assez compliqué et long et un peu coûteux finalement, parce que on a fait 5 voyages sur 5 ans pour réussir un peu à lancer les pistes et à récupérer quelques informations. La première difficulté, c'était aussi d'avoir des gens qui acceptaient de travailler sur ce thème-là avec nous au Japon. Parce qu'en fait, même les traducteurs, même les fixeurs qu'on employait refusaient de poser ces questions à la famille, aux proches de disparus, d'enquêter dans leurs proches sur cette thématique un peu dérangeante. Donc une fois qu'on avait réussi quand même à convaincre certaines personnes de travailler avec nous, c'est vrai qu'ils lançaient pas mal de pistes, mais au final, les mois passaient, puis on n'avait jamais un vrai témoignage, une vraie personne à rencontrer. Donc on a dû vraiment creuser, se rapprocher en effet d'associations qui sont assez peu nombreuses, qui aident un peu les familles à chercher leurs disparus, ou bien au niveau de la police.
Qui normalement n'est pas mandaté légalement pour rechercher ses disparus.
Voilà, pareil.
S'il n'y a pas de soupçon d'assassinat.
Finalement, les policiers nous disaient qu'ils n'avaient peu de cas, qu'ils pouvaient aussi
Ce qui est incroyable, c'est que vous retrouvez des évaporés aux abords des très grandes villes, comme Tokyo y compris, non?
L'anonymat des mégapoles protège. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des disparus sont dans les grandes villes et se cachent parfois même à 4 stations de métro de l'endroit où ils vivaient avant. Se cachent ou ne se cachent pas. Parce que ce qui est assez intéressant, c'est que n'ayant pas le sentiment d'être recherchés, certains gardent leur identité et continuent à vivre comme avant. Et en ça, je pense que c'est très
japonais. Et on ne les retrouve pas. Il y a une famille entière qui disparaît comme ça, dont vous avez recueilli le témoignage. Un homme, sa femme, le petit garçon qui, entre-temps, a grandi.
Leurs 3 enfants, en fait. Nous, on a vu, il y avait un seul des enfants qui était là quand on les a rencontrés, mais ils avaient 3 enfants et la grand-mère.
Ils ont disparu ensemble.
Alors, eux, c'est vraiment lié à des dettes. Ils sont passés par une société de déménagement. Ils ont fui en famille. Donc, eux se sont vraiment cachés et ont changé d'identité, ils ont changé de ville et ils avaient emprunté de l'argent à une société de titres qui était liée à la mafia. Donc là, il y avait un vrai danger en fait et du coup une urgence à disparaître.
Quel est le rôle de ces sociétés de déménageurs, comme vous les appelez?
Donc ça s'est vraiment développé dans les années 90, hein, où finalement la fuite est presque devenue une entreprise. Donc c'était des sociétés,
ça se prépare, hein, c'est on disparaît
oui,
pas
oui,
comme
en
ça.
En fait, surtout quand c'est des familles entières, c'est-à-dire que partir aller prendre le train ne jamais revenir, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est possible quand on est seul, quand on part avec des enfants et qu'on veut fuir des dettes, il faut l'organiser. Et donc dans ce cas-là, c'était donc des sociétés de déménagement classiques qui donc ont commencé, donc je vais vous donner l'exemple d'un déménageur qui lui-même est un disparu, qui a créé sa société, qui d'abord était une société qu'il a appelée débarras en tout genre, qui en fait ramassait tout et n'importe quoi, faisait tous les petits boulots que les gens n'avaient pas envie de faire. Et dans les années 90, il a commencé à recevoir des appels. Et les gens expliquaient leur situation, voilà, en fait j'ai besoin de partir discrètement la nuit, un nouveau mot est apparu. On a appelé les disparitions les yonige, qui voulait dire les fuites discrètes la nuit. Et donc petit à petit, à force de recevoir ces appels, sa société de déménagement s'est transformée en société d'évaporation.
C'est ça. Ça, ce sont pour des gens qui emportent quelque chose, mais la plupart partent les mains vides, n'utilisent plus leur compte en banque, parce que sinon, évidemment, on pourrait guetter les mouvements bancaires à partir d'un compte.
En général, on part avec quelques économies en liquide et on laisse tout derrière soi. On laisse ses clés, on laisse son téléphone, on laisse, pour ceux qui ont des lentilles de contact, ça m'a beaucoup frappé parce que dans les familles, ce qu'on retrouve, les gens se partent avec leurs lunettes alors qu'ils portaient des lentilles de contact. Peut-être parce que effectivement, c'est plus difficile d'être reconnu. Et après, alors, on n'utilise pas la carte bancaire. En revanche, certains continuent à utiliser, en fait, leur carte de sécurité sociale. Et justement, parce que les fichiers sont assez peu recoupés.
Et, d'une région à l'autre, etc.
Voilà. Et parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'être recherchés. Donc, comme la famille va pas faire le tour de tous les districts, certains continuent à utiliser certains de leurs papiers.
Thierry Coulon?
Oui, bah, en France, c'est un peu la même chose. Sauf que, bon, quelqu'un qui veut réellement disparaître se coupe de tout. Alors moi, j'ai eu des cas de personnes qui ont disparu, qui ont fait table rase de tout ça pendant quelques années, qui au bout de quelques années se croyaient à l'abri et ont repris un appartement, et ont repris un téléphone et on les a retrouvés tout simplement comme ça.
Avec leur véritable identité ?
Avec leur véritable identité. Elles étaient parties de la région parisienne, on les a retrouvées sur Grenoble. Quand on veut vraiment, on arrive toujours à retrouver.
Alors c'est ça qui est compliqué à comprendre pour vos évaporés du Japon, Léna Mauger et Stéphane Rémal, c'est que à la fois vous avez recueilli des témoignages de grandes douleurs, de familles, notamment je pense à ce père de famille qui parlait de la disparition de son fils, 24 ans je crois, sur un ferry, qui n'est jamais réapparu. Il n'y a pas vraiment de raison de penser qu'il serait passé par-dessus bord. C'est ça, hein,
l'idée. Oui, parce qu'en fait le personnel du bateau dit, vu la forme du ferry, et puis nous, il y a des caméras, on a observé, il n'a pas pu sauter. Nous, en fait, on est sortis, on est allés rencontrer cette famille qui était hyper touchant, puis ils nous avaient préparé une espèce de festin, ils avaient commandé tous les plats parce qu'ils avaient peur qu'on n'aime pas les plats japonais. Et à chaque fois, ils disaient, bah, nous, on a épuisé tous les recours, nous, on a brisé
la... Ils ont vraiment cherché.
Nous, on a vraiment cherché, on a vraiment brisé le tabou, c'est-à-dire que le frère a annoncé à son mariage, devant des centaines de personnes, que son frère avait disparu, 4 ans après la disparition, c'était la première fois qu'il en parlait. Le père en a parlé à son travail, et après, ils ont tout essayé. Ils ont essayé d'aller dans des émissions de télévision. Ils ont essayé de... Et donc nous, ils attendaient quelque chose. Alors que bon, au début, on essayait de leur expliquer que voilà, on pouvait pas forcément apporter des réponses. Mais le fils est parti, il avait 24 ans. Ils nous ont montré des photos, il était assez bien inséré, joli garçon. Enfin, a priori, il avait aucune raison de partir. Et nous, on est sortis de chez eux, de ces heures très émouvantes avec la famille. Et on se posait effectivement toutes les questions. C'est tellement incompréhensible.
Ouais, l'énigme, là, reste entière. Hein.
Et ça fait 8 ans.
Qu'est-ce qui est le plus douloureux pour les familles que vous rencontrez avec votre association ?
On peut disparaître et être retrouvé très vite. Maintenant, moi, j'ai le cas de certaines familles où ça fait des années que la personne est disparue. Et dans ces cas-là, les familles sont partagées entre l'accident, entre le deuil. Ils ne savent pas. Rien pour se recueillir, rien pour...
Il y a un moment où on déclare le décès ou pas, d'ailleurs ?
Ils ne peuvent plus se rattacher à quoi que ce soit. Avant, les familles, au bout de 10 ans, donc, on déclarait la personne décédée. Maintenant, tant qu'on n'a pas de nouvelles, le dossier reste toujours ouvert. C'est ça qui est difficile pour les familles, c'est ne pas pouvoir se raccrocher à quoi que ce soit, à savoir s'il est vivant, s'il est décédé. Et ça, c'est infernal pour une famille.
Les disparus, les évaporés que vous avez rencontrés, qui ont accepté de vous confier leur parcours, Léna Mauger, Stéphane Rénael, ils sont conscients de cette douleur-là, des familles. Ils vous en ont parlé ?
Au Japon, on parle assez peu de soi, enfin en tout cas de ses sentiments. Donc les gens nous racontaient, en fait, faisaient le récit de leur disparition, le récit de la vie avant, le récit de la vie après, répondaient aux questions. Mais dévoiler ses sentiments, c'était assez difficile. Par exemple, il y a un jeune qu'on a rencontré, qui lui est parti, s'est engagé dans la mafia, qui a fini par revenir et qui nous disait, mais finalement c'est assez facile de disparaître, mais c'est beaucoup plus difficile de se reconstruire, parce que moi je peux pas dire ce que j'ai fait, ma femme du coup ne me pose pas de questions, parce qu'on est un pays où on me pose pas trop de questions, et donc vivre avec 2 ans de blanc, c'est quelque chose d'assez insupportable. C'est entre le passé et l'avenir, c'est entre la légalité et l'illégalité, c'est entre les souvenirs et l'envie qui est toujours présente, en fait, de renouer le contact. Donc c'est vraiment un Japon qu'on voit jamais, en fait. Ce qui était frappant, c'est que, enfin, c'est un sujet qui est omniprésent, mais invisible. Quand même, en discutant avec les gens, ils ont tous plus ou moins dans leur cercle éloigné une histoire de disparition. Ils font pas forcément le lien, en fait, avec le thème des évaporés.
Vous citez Boris Vian dans votre livre, qui, je connaissais pas cette phrase, qui disait « Un homme digne de ce nom ne fuit jamais, fuir c'est bon pour un robinet ».
Pourquoi vous avez retrouvé cette phrase? Parce que
je sais pas, je m'étais souvenue, j'avais lu cette phrase il y a longtemps et j'ai essayé de la retrouver, donc j'ai retrouvé dans Boris Vian. Et enfin, ça m'a frappée parce que en fait au Japon la philosophie s'inverse. On fuit pour sauver l'honneur quand même.
Donc c'est comme le suicide.
Il y a quand même un côté égoïste parce qu'on fuit pour sauver l'honneur. Soit, sauf que derrière on réfléchit pas trop puis on laisse une famille dans le désarroi.
Bien sûr, mais bon, c'est comme le suicide du samouraï, en fait. Voilà, au Japon, il y a ce côté qui, je pense, n'existe pas en France, en fait.
Non.
Les disparus que l'on retrouve en France, comment expliquent-ils leurs gestes?
Pour ceux avec qui j'ai pu avoir un contact, beaucoup le regrettent. Bien souvent, on part pour des raisons qui nous paraissent insurmontables au départ. Et quand on y réfléchit bien, il y a toujours une solution. Partir, c'est ce qu'une personne me disait, c'est facile, on prend son baluchon, on claque la porte, on s'en va et on se retourne pas. Mais au bout d'un certain temps passé dans la rue, il faut savoir que le passé vous rattrape. Vous gambergez, vous n'avez plus que ça à faire, que gamberger, gamberger, gamberger. Alors à un moment donné, vous avez la nostalgie qui s'installe. Dans ces moments-là, on se dit, on veut pas revenir parce qu'on a honte. On se dit, mais si je reviens, comment je vais être reçu? Comment les gens à qui j'ai fait ça, que j'aime, vont me recevoir? Est-ce que je vais pas prendre une claque à nouveau? Donc tout ça, ça fait que les gens, si on les aide pas, ils s'enfoncent, c'est ce clochardise, quoi.
Time to turn around.
Chez 7 milliards de voisins, nous parlons des disparitions volontaires aujourd'hui sur RFI à la lumière de ce très beau livre de textes et de photographies qui s'appelle Les évaporés du Japon, publié aux éditions Les Arènes, enquête sur le phénomène des disparitions volontaires. Donc dans un pays où, semble-t-il, avec près de 100 000, entre 80 000 et 100 000 disparitions volontaires chaque année d'adultes, hein, c'est ce que vous nous dites depuis le début de l'émission, Lena Mauger et Stéphane Remael, c'est que c'est tout de même un phénomène à la fois tabou, à la fois honteux et à la fois pas si banal que cela. Thierry Coulon, vous dirigez une association d'aide aux familles de disparus. Aujourd'hui, la recherche dans l'intérêt des familles, qui était une recherche, donc on contactait les services de police, la RIF, hein, donc, oui, et qui permettait de mener une enquête via les services de police pour rechercher ces personnes, ça a été abrogé par le ministère de l'Intérieur en 2013.
Voilà, tout à fait. Donc, recherche dans l'intérêt des familles, le mot recherche, on s'attend à ce qu'il y ait une enquête derrière. Il n'y avait pas d'enquête à proprement dit. Le terme est pas bon, recherche dans l'intérêt des familles, on s'attend à ce qu'il y ait une équipe d'enquêteurs qui aille sur le terrain. En fait, il en est rien, c'est simplement une base de données informatique. Depuis 2013, effectivement, ça a été abrogé, mais ça n'a été remplacé par rien.
Mais alors qu'est-ce que ça change finalement s'il n'y avait pas d'enquête?
Ça change énormément. La RIF n'était pas que pour les disparus volontaires, ou les recherches de personnes disparues. Je prends l'exemple de famille. On va aborder 30 secondes les mineurs pour bien vous expliquer.
Les mineurs, il y a une enquête là, bien sûr.
Il y a une enquête, oui, mais c'est... Si je prends Marion Wagon, je prends Estelle Mouzin, Stéphane Hirson, Cécile Valin et j'en passe, il y a une enquête.
Donc des enfants qui n'ont jamais été retrouvés, dont on n'a pas retrouvé le corps.
Des personnes recherchées, le fameux FPR, qui existe depuis quelques dizaines d'années, on va dire. Sur ce fichier-là, la durée d'inscription est de 2 ans. Donc, au bout de 18 mois, les familles avaient l'habitude d'aller au commissariat faire une recherche dans l'intérêt des familles pour permettre au FPR de rester ouvert. Cette RIF n'existant plus, il n'y a plus de moyen de prolonger le FPR. Ce qui est une aberration
pour
en soi.
Pour les mineurs, vous voulez dire que du coup, il y a une incidence sur les enquêtes concernant les disparitions des mineurs.
Tout à fait.
Également. Concernant les adultes.
Pour les adultes, c'est la même chose. Une personne qui est inscrite au FPR, le fichier des personnes recherchées. À partir du moment où elle est inscrite sur ce fichier-là, elle y est inscrite pour 2 ans. Donc, au bout de 2 ans, maintenant... Il n'y a plus rien. Donc, au bout de 2 ans, si c'est pas l'autorité judiciaire qui la maintient ouverte d'une certaine façon, la famille ne peut pas la maintenir ouverte.
Que font les familles?
Les familles sont dans la détresse, elles savent plus quoi faire et elles viennent voir les associations qui sont là pour essayer de les aider. On a une façon qui nous est bien particulière. On a chez nous d'anciens enquêteurs qui soient de la police ou de la gendarmerie, qui étaient soit en section de recherche,
soit
en police judiciaire, qui sont bénévoles et qui font un travail phénoménal. Voilà, on n'a pas que ça, mais on en a quelques-uns, et on fait un travail phénoménal là-dessus. On est là pour épauler les familles, on est là pour les soutenir dans les épreuves, on est là dans toutes les facettes, je dirais, de la disparition. Pour nous, le dossier va pas s'arrêter au moment où on va retrouver la personne, mais ça va continuer après, on va faire de la médiation jusqu'à ce que tous les paramètres soient ouverts. C'est-à-dire que tant que la personne n'a pas retrouvé ses habitudes, tant qu'elle ne s'est pas expliquée avec sa famille...
Alors, ça ne veut pas dire qu'elle soit revenue, mais ça veut dire au moins qu'il y a eu,
On est là pour faire de la médiation, pour les rapprocher, et pour faire en sorte que les choses, la vie reprenne un cours normal, on va dire.
Au Japon, il y a des associations d'aide aux familles de disparus, malgré la honte, malgré le tabou.
Il y en a vraiment très peu, en fait. La première fois qu'on allait, on n'avait même pas trouvé... Pourtant, on avait des traducteurs qui avaient cherché. Après, on a des traducteurs qui ont trouvé, notamment une association qui recense le plus de cas, qui a été créée par deux détectives privés, qui ont eux-mêmes des histoires familiales dans lesquelles il y a eu des disparitions ou des suicides. Et donc, comme les tarifs des détectives privés sont très élevés, que la plupart des enquêtes s'arrêtent en route, parce que c'est évidemment extrêmement compliqué de retrouver un disparu dans l'archipel, eux aident bénévolement les familles, mais ils disent on compte sur notre chance, parce qu'ils vont dans les lieux qui traditionnellement peuvent aimanter les gens en errance, donc ça peut être les internet cafés dans lesquels on peut dormir, ça peut être les hôtels capsules, parce qu'il y a des hôtels au Japon, où on peut dormir une nuit.
Peut-être dire à quoi ça ressemble, ces hôtels, parce que vous avez...
C'est des hôtels où on a l'impression de dormir un peu dans des cercueils empilés les uns sur les autres. Et il y a une petite télé sur le côté.
Une connexion Wi-Fi.
Voilà, une connexion Wi-Fi. On range toutes ses affaires dans un casier, on donne un pyjama le même pour tout le monde et on prend, on se lève dans un...
Et on prend pas forcément une empreinte de carte bancaire ou une
identité. Non, et puis on n'est pas obligé de donner, il y en a qui sont vraiment pas chers, de donner une carte d'identité ou de... En fait, c'est aussi des hôtels des voyageurs. Je pense que c'est en ça que le Japon facilite aussi la disparition, c'est qu'il y a des lieux, il y a beaucoup de travail au noir, il y a des quartiers dans lesquels on peut aller et pointer le matin pour être recruté sur des chantiers à la journée. Et d'une certaine manière, en fait, les évaporés du Japon sont un peu des clandestins dans leur propre pays.
En ce qui concerne la France, vous semblez réticent quant au fait d'utiliser les services de détectives privés, mais c'est pourtant ce que font les familles, beaucoup.
Dans les cas que je connais, moi je gère actuellement plus de 400 dossiers, enfin l'association, j'ai plus de 400 dossiers au niveau du territoire français. On a, je crois, une dizaine de familles qui ont fait appel à des agences privées de recherche. Je suis pas contre le principe, sauf que pour le moment, cette profession est en train de s'assainir, mais il y a encore des pseudo-détectives privés qui prennent très cher et qui ne font rien de plus que ce que l'on fait nous. Pourquoi payer 500 ou 600 euros par jour avec 3 ou 4 jours d'avance sans obligation de résultat? Ils ont juste une obligation de moyens, si ce n'est qu'enrichir certaines personnes qui s'enrichissent facilement sur le désarroi des autres.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demanderiez au gouvernement? Qu'est-ce que vous souhaiteriez finalement, Thierry Coulon?
Déjà de faire quelque chose pour remplacer cette fameuse RIF. Parce qu'on peut pas abroger quelque chose sans le remplacer par autre chose.
Officiellement, ça coûtait cher.
Non, j'ai même discuté avec des familles, ça aurait même coûté 300 euros que les familles étaient prêtes à les payer, ces 300 euros. C'est pour moi des économies de bout de ficelle. Faudrait rétablir quelque chose qui soit l'équivalent de ce qu'il y avait au niveau de la RIF. Tout à l'heure, j'ai parlé de la RIF par rapport au FPR. Mmh. Il y avait ce qu'on appelait, au bout de 3 mois ou 6 mois, s'il n'y avait pas eu de réponse positive, vous receviez le certificat de vaine recherche qui permettait de pouvoir faire valoir ses droits vis-à-vis d'un notaire, vis-à-vis de plusieurs organismes. Or là, c'est quoi?
Du coup, ça veut dire que tout est gelé.
Maintenant, la seule chose que le ministère de l'Intérieur a quand même trouvé à faire, c'est, par rapport à l'abrogation de la RIF, c'est quand même à diriger les familles vers les réseaux sociaux. Comme si ces réseaux sociaux-là avaient...
Encore faut-il que le disparu veuille bien réapparaître dans les réseaux sociaux et répondre.
C'est même pas ça. C'est que moi je connais très peu de familles qui vont aller parler de leur vie et étaler leur vie sur Facebook ou Twitter, parce que c'est quand même...
Il y a des familles de disparus, je pense à des conjoints notamment, qui se retrouvent dans des situations financières complètement abracadabrantesques.
Oui, j'ai des cas comme ça, oui, effectivement. Du fait que le conjoint n'est plus là, tout est gelé. S'ils ont des dettes, ils peuvent pas vendre l'appartement ou leur maison. Ils sont obligés de passer par un juge pour demander l'autorisation de pouvoir vendre, et c'est pas quelque chose de facile.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'une société dans laquelle plusieurs milliers de personnes disparaissent chaque année, c'est une société qui a un problème?
Oui, enfin ne serait-ce que
c'est la liberté fondamentale finalement.
Moi, j'appelle pas ça une liberté, parce que c'est peut-être une liberté pour celui qui disparaît, c'est pas une liberté pour ceux qui sont derrière et qui le vivent. C'est quelque chose d'énorme pour eux.
Vous préconisez une véritable politique de prévention, parler aux jeunes, par exemple.
Ce que je souhaiterais, ça fait des années que j'en parle, c'est qu'une personne qui a envie de disparaître, aille au commissariat et puis dise, moi je veux changer de vie, se déclarer comme tel. Qu'il n'y ait pas derrière des services de police, qu'il n'y ait pas des associations, qu'il n'y ait pas des dizaines de personnes à la recherche de cette personne, alors que celle-ci ne veut pas être retrouvée. Et que le personnel qui aurait pu être mis là-dessus puisse être mis sur des disparitions beaucoup plus inquiétantes.
En matière de prévention, ça vous arrive d'aller parler, par exemple, auprès des jeunes?
Oui, ça nous arrive.
Sachant que c'est pas forcément les jeunes qui disparaissent le plus, hein.
Il y a de tout. Vous avez aussi bien des jeunes que des moins jeunes, mais il n'y a pas de secteur plus touché qu'un autre. Vous avez aussi bien les personnes du fin fond du 93 que ceux qui habitent le 16e arrondissement, quoi.
Ça touche tous les milieux.
Voilà.
Au Japon, on a le sentiment, quand on lit les témoignages que vous avez recueillis, votre enquête aussi, qui est assez palpitante, et puis les photos, on a quand même vraiment un profond sentiment que la société japonaise est malade, Léna Mogé.
Un malade, je sais pas, mais en tout cas, il y a une pression sociale qui est extrêmement forte. Et c'est vrai qu'un Japonais passe sa vie à rembourser ses dettes. C'est-à-dire qu'on a des dettes envers ses parents, on a des dettes envers l'école, on a des dettes envers son patron, on a des dettes envers l'empereur. Et en fait, passer une vie à rembourser
des dettes morales,
pour des
gens, c'est-à-dire on a des dettes parce qu'on n'a pas réussi aux examens et donc on se sent responsable vis-à-vis de ses parents d'avoir échoué aux examens aussi.
Exactement. Et donc pour certaines personnes, c'est insupportable. Donc Certains disent effectivement disparaître, c'est dans cette société-là une manière de rechercher la liberté. Mmh. Et en fait, la figure du disparu au Japon, elle vient d'un mot que je trouve très joli, qui est furaibo, qui est l'homme qui va avec le vent. Et ça désignait le vagabond au Moyen Âge. Et en fait, c'était une figure qui a inspiré à la fois énormément de crainte, parce que finalement, elle ne rentrait pas dans l'ordre social, et en même temps énormément de fascination, parce que c'était la seule à avoir réussi un moment ou un autre à être plus libre.
Quand on va mal au Japon et que on décide de ne pas se suicider et de ne pas disparaître, de ne pas se transformer en évaporer, il y a d'autres phénomènes tout aussi curieux. Je pense au phénomène des
Ikikomori,
qui sont des gens qui s'enferment, enfin ce sont des jeunes, hein, en majorité entre 15-35 ans, hein, qui s'enferment dans une pièce, souvent avec un ordinateur, et qui n'en sortent plus.
C'est un phénomène qu'on associe souvent à la génération perdue, donc à ces jeunes qui, à la différence de leurs parents, n'ont pas de garantie d'emploi et donc ont cette pression sociale, mais sans avenir assuré. Et donc ils choisissent un jour, par désespoir, enfin pour un tas de raisons, de ne plus sortir de chez eux. Et certains disent que finalement c'est une forme de disparition sociale. C'est-à-dire que le monde autour de soi devient insupportable. Et donc on s'enferme, on s'entoure d'objets. Parfois, oui, avec Internet. Parfois, c'est des gens qui s'entourent d'objets, qui les accumulent, qui développent une passion pour quelque chose. Et donc, sur Internet ou ailleurs, vont creuser à fond cette passion et se construisent leur propre monde.
Merci en tout cas à tous les trois. Léna Mogé, Stéphane Rémael, il faut lire votre enquête qui s'appelle Les Évaporés du Japon aux éditions Les Arènes. Thierry Coulon, il y a un site internet?
ARPD-IDF.org. Vous tapez ça sur Google, vous tombez directement sur le site.
ARPD-IDF. IDF.org. Voilà. Merci infiniment d'être venu chez 7 milliards de voisins. Merci à l'équipe Éléonore Krenig, réalisation Romain Dubrac, et pour toutes vos réactions. Bien sûr, vous pouvez nous écrire à 7milliards@rfi.fr ou réécouter toutes nos émissions en podcast sur le site rfi.fr à la page, bien sûr, des 7 milliards de voisins. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons des restaurants d'entreprise ou des cantines et autres restaurants universitaires. Peut-on mieux manger au travail? Vous pouvez nous appeler dès maintenant 33 1 84 22 71 71. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci les voisins.